Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Marc 8, 27, 29. Ce Jésus est le Christ. Dans l'esprit des disciples, deux données, deux réalités, viennent se rejoindre, vont ne plus en faire qu'une. D'un côté, l'expérience qu'ils vivent au quotidien de la proximité avec un juif qui s'appelle Jésus de Nazareth, avec qui ils vivent, avec qui ils marchent, avec qui ils mangent, avec qui ils discutent, avec qui ils se promènent dans toute la Palestine, avec tout ce que nous pouvons, non pas imaginer, parce que nous le savons, d'amitié et de fraternité qui naît lorsqu'on marche ensemble, lorsqu'on vit ensemble, lorsqu'on travaille ensemble. Et en même temps, ils se rendent compte que cet ami, ce compagnon de route, au sens fort du terme, eh bien, c'est l'espérance d'Israël. C'est le Messie attendu. Alors là, on touche à un problème un peu complexe. Parce que essayer de faire comprendre pour un Français aujourd'hui ce qu'est le Messie, c'est pas absolument évident. Parce que le Messie, dans le langage courant, il est attendu comme le Messie, c'est-à-dire quelque chose qui n'arrive jamais, quelque chose d'extraordinaire. Enfin, voilà. Pas du tout. Le Messie, c'est la transcription du mot hébreu « machina » qui signifie « oint ». O-I-N-T, du verbe « oindre », c'est-à-dire on va enduire une réalité d'un corps gras, d'huile en l'occurrence. Et le mot « Christ » est la transcription de la traduction grecque de « Messie ». Christos, c'est oint. Christé eleison, c'est toi qui es le oint, loin du Seigneur, prends pitié. On évite de traduire oint, pitoie-toi. Bon. Et donc, c'est cette onction d'huile qui fait le Messie. Dans la tradition biblique, l'onction d'huile parfumée est toujours utilisée pour désigner une consécration spéciale au service de Dieu. Les rois sont oints, et d'ailleurs les rois de France étaient aussi oints avec le Saint-Crème lors de leur sacre. Donc le roi, dans cette tradition-là, est le lieutenant. En gros, il tient lieu de Dieu sur terre, le représentant de Dieu sur la terre. Son autorité est sacrée. Et ça, on le voit, il y a Saül, il y a David, et donc le roi est investi d'une mission qui vient de Dieu et qui est au service du peuple, de ce qu'on pourrait appeler le bien commun. C'est-à-dire défendre le peuple contre ses ennemis, le libérer de ses oppresseurs, le rassembler dans l'unité de la ville sainte, du royaume, le gouverner selon la loi de Moïse, afin que le peuple soit heureux et prospère. La royauté, l'onction du monarque, signifie que le premier souci du monarque, du roi, c'est que ses sujets, que le peuple qui lui est confié, soit heureux et prospère, qu'ils aient de quoi manger à leur faim, de quoi faire l'aumône, de quoi élever leurs enfants, quelque chose de très très humain, somme toute. Et donc, Dieu était censé, je dirais, prendre le roi sous sa protection, il était loin du Seigneur. Bref, Dieu est avec le roi pour tout ce qui concerne le gouvernement. Mais le roi n'est qu'un homme. Et le roi peut de temps en temps trahir sa mission et profiter de son pouvoir non pas pour rejoindre ou tendre vers le bien commun, mais pour s'occuper de son bien propre, d'un bien particulier. Eh bien, il peut utiliser son pouvoir pour tromper, pour prendre la femme d'un homme, pour uriluitite, pour s'approprier des biens. Et là, c'est là que, dans la Bible, Dieu intervient par les prophètes pour dire, attendez, stop, celui-là, on arrête. On arrête. Et les prophètes sont la voix de Dieu qui se désolidarise, qui se sépare du roi de loin, parce que il n'agit plus selon la volonté de Dieu. Or, c'est ça, en principe, s'il a reçu l'onction, agir selon la volonté de Dieu, c'est sa raison d'être. Et donc, toute cette lente évolution de la royauté d'Israël, eh bien, va évoluer. Il y a un serment, une promesse solennelle, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Mais ça dépasse bien évidemment largement la dynastie de David. Ça dépasse même ce que l'on peut espérer ou même imaginer, ça dépasse même l'histoire, puisque arrive là le thème fondamental, le messianisme, c'est-à-dire l'attente d'un autre David, d'un nouveau roi qui sera oint par Dieu et qui va faire non pas le salut du peuple juif, mais le salut du monde. Et toute l'histoire ultérieure d'Israël va converger vers ce pôle lumineux. Parce qu'en fait, si on remarque, c'est un peu complexe à comprendre pour nous qui avons une culture plus occidentale, mais disons globalement que nous sommes habitués à avoir, à connaître deux conceptions du temps. Un temps linéaire, qui part des origines, de moins l'infini à plus l'infini, admettons, et qui va se diviser en passé, présent et avenir. Et puis un temps cyclique. Un temps cyclique, c'est le retour des choses, le retour des saisons. Pour les Hébreux, c'est un peu plus compliqué. C'est une spirale qui s'étire. Parce qu'en fait, il va y avoir le temps cyclique, c'est-à-dire la promesse, je ferai de vous un peuple. C'est fait. Je vous donnerai un temple. Je vous donnerai un roi. Et je vous donnerai un messie. Et à chaque fois qu'un premier cycle est accompli et que, ça y est, vous n'étiez pas un peuple, je vais faire de vous un peuple. Ensuite, vous n'avez pas de terre, je vous donne une terre. L'Exode, Moïse, la terre promise, la fuite d'Égypte. Vous n'avez pas de... Et les juges, je vous donnerai un roi. Et après, je vous donnerai un messie. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le peuple comprend, au début avec des réalités très très matérielles, vous étiez esclave, je vous libère. Vous n'avez pas de territoire, je vous donne un pays. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre, et au fur et à mesure, eh bien, on met pédagogiquement la barre plus haut. C'est très scolaire comme système. On commence d'abord par maîtriser quelque chose, et quand on voit qu'on arrive à maîtriser, eh bien, on passe à une autre partie du programme. Et toute l'histoire d'Israël converge vers cette espèce d'idée qu'un jour, il y aura le fils de David qui reviendra. Ça n'a pas empêché, cette royauté messianique, ça n'a pas empêché d'avoir quelques petits problèmes. L'exil, la destruction de Jérusalem par Nabucodonosor en 587, la royauté est détruite. Et lorsque un royaume de Juda va se reconstituer à peu près 70 ans plus tard, c'est plus tellement le roi, c'est le grand prêtre qui sera loin. C'est le grand prêtre qui recevra l'onction et c'est la personnalité du grand prêtre qui l'emportera en termes de pouvoir sur celle du roi. Mais, et cette réalité, elle est double. Elle est double parce que on arrive maintenant, on a eu les rois n'ont pas marché, on va avoir le roi prêtre. Le roi qui sera le prêtre pour éternité, qui pourra accomplir le grand sacrifice, le sacrifice de Melchisédek. Quant aux prophètes, eux, ils l'annoncent. Ils l'annoncent. Et petit à petit, là aussi, ils précisent ce Messie qui sera revêtu de la plénitude de l'Esprit de Dieu, qui sera prophète autant que roi. Et il ira jusqu'au bout, y compris dans cette mission du roi qui est au service de son peuple, il va aller jusqu'au bout de cette mission, car il sera le serviteur souffrant dans Isaïe, qui va aller jusqu'à la souffrance expiatrice, préfiguration du Christ. Et dans l'esprit des prophètes, la véritable onction, elle est tout à fait autre, c'est tout à fait autre chose qu'une onction rituelle. Elle est une prise, comment dire, Dieu va prendre possession de son Messie pour qu'en tout acte, il accomplisse fidèlement sa mission. Un peu comme si, par exemple, on pouvait dire, voilà, on a fait des tas d'essais avec des tas de droits, des caractères différents. Ça n'a jamais marché. Là, maintenant, il faut que quelqu'un de sûr. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus sûr que la parole de celui qui la prononce? Et à ce moment-là, le Messie ne peut être autre chose que la parole de Dieu, engendrée par le Père, qui va s'incarner afin qu'en tous ses actes, ce Messie, ce roi-prêtre, en quelque sorte, accomplisse sans défaillir sa mission. Et ça, c'est effectivement cette révélation du Messie. C'est cette mission que décrivait Isaïe dans des termes que Jésus, quelquefois, s'est appliqué à lui-même. Nous sommes mieux, on peut mieux comprendre, annoncer aux captifs la libération, tout ça. On est vraiment, c'est par là que Jésus veut faire commencer à dévoiler son identité messianique. Tout est dit. Je suis venu consoler les affligés. À coup sûr, il faut entendre ça. Il faut entendre ça. Et il faut oublier, dans la notion des affligés, de tout ce qu'il peut y avoir de larmoiement et de sentimentalité. Hein. L'homme dans la Bible, l'homme biblique, même s'il parfois il est infidèle, il est quelqu'un de fondamentalement positif. Il n'appelle pas à consolation les bonnes paroles. Allez, console-toi, sois gentil. Non, pour lui, la consolation, c'est qu'on lui rende justice. Qu'on lui rende ce à quoi il a droit. Qu'on le débarrasse de ceux qui veulent le réduire en esclavage. Qu'on lui rende l'enfant qu'il a perdu à la guerre ou qui est mort en bas âge. Qu'on lui donne les moyens de vivre en homme libre et debout. C'est sa peine, son affliction en quelque sorte, puisqu'il est « je viens consoler les affligés », son affliction, ce qui le rend affligé, c'est ce qui pèse sur tous les hommes, sur toutes les générations d'hommes. Et c'est cette affliction qui est commune à l'humanité entière, quelles que soient les races, les religions, tout ce qu'on veut, qui fait que la Bible, en dehors même de toute vision religieuse, de tout aspect de révélation, est un des textes de l'humanité espérante et souffrante les plus extraordinaires qui soient. Personne ne peut être indifférent, pour peu qu'on ait un peu d'intelligence et de bon sens et qu'on soit un être humain, personne ne peut être indifférent au livre de Job. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça. Même un croyant est obligé de se rendre compte qu'il y a dans ces textes une force qui provient justement de leur profonde humanité. Ces textes ne peuvent pas avoir été écrits, je dirais, par un Dieu désincarné. La force de ces textes provient fondamentalement de l'humanité du Christ, c'est-à-dire de l'humanité de Dieu. Alors qu'est-ce qu'a fait Dieu pendant tous ces siècles? Parce que là aussi, on pourrait se poser la question, parce que le Dieu aux longues patiences, enfin, pourquoi a-t-il mis tant de temps pour s'incarner? Pourquoi à ce moment-là? Alors, la Bible nous dit à la plénitude des temps. Faut-il en déduire que les temps sont accomplis? Oui, puisque le Seigneur vient et qu'il est constamment en train de venir. Mais dans l'Ancienne Alliance, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Rien de spécial. Il a amené un certain nombre d'hommes, ce petit peuple juif, à oser dire publiquement, ouvertement, qu'ils avaient besoin de consolation. Notre besoin de consolation est impossible à exprimer. Alors, une consolation très particulière, non pas une consolation qui serait une résignation, une consolation qui serait un aplatissement de l'homme devant une religion qui ne serait que l'opium du peuple. C'est pas ça, non. Mais une consolation qui s'exprime lorsque justice, paix, amour, fidélité, bonheur deviendront vrais sur la terre une fois pour toutes. Amour et vérité s'embrassent. Et cet homme juif sait parfaitement que cela n'arrivera que par une alliance entre Dieu et les hommes. Et ces hommes, leur réponse, c'est qu'ils sont prêts à aider Dieu dans sa mission. Si Dieu ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Et ils savent ce que c'est qu'un maçon. Ils ont construit leur maison. Et donc ils sont prêts à mettre la main à la pâte ou à la pierre, mais ça ne peut fonctionner que si Dieu est avec eux. Dieu est avec eux, ça se dit comment? Emmanuel, Dieu avec nous. Si Dieu ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Il y a le si conditionnel. Si les maçons travaillent pour rien, sauf à condition, ne travailleront pas pour rien à condition que Dieu soit avec eux. Mais attention, Cela pourrait apparaître simplement comme un idéal. On parle d'ailleurs souvent de l'idéal chrétien. Non, ça n'est pas exact. Un idéal, c'est pas fait pour être atteint. Un idéal, c'est une projection fantasmatique. Un idéal, c'est des aspirations qui ne font que nous renvoyer à notre impuissance, puisque un idéal, par définition, ça ne s'atteint pas. Et l'idéal ne peut exister dans la tête des gens que par la mise de côté de certaines choses matérielles, réelles, et qui existent vraiment. L'attente messianique, elle, s'intensifie et se purifie par la force des choses, par les faits concrets de la vie quotidienne. L'attente messianique, elle veut atteindre, elle veut toucher non pas un idéal inatteignable comme un point de chute à l'horizon qui s'éloigne au fur et à mesure que l'on avance, mais par une réalité tangible et totale. Une espèce de réalisme absolu qui consiste à dire que certaines choses sont impossibles à l'homme, mais possibles à Dieu avec les hommes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Dans les oppressions, dans l'exil, Israël criait, hurlait par ses psalmistes et ses prophètes qu'il y avait des choses inacceptables. Job proclame qu'il y a des gens qui ont des vies invivables, un mal injustifiable. Et tous les prophètes et les psalmistes n'arrêtent pas de répéter que l'homme n'est pas fait pour succomber à la maladie, à la haine, à la guerre, à la mort. Et là, même ceux qui étaient épargnés apprenaient à reprendre ce cri au nom des autres, au nom de tout un peuple. Le vieillard Siméon, avec sa douloureuse expérience qui tient bon dans l'espérance d'une humanité nouvelle, il attendait la consolation d'Israël, nous dit Luc 2, 25. Et nous pensons, nous croyons que ces cris et ces aveux de Job, de Samuel, d'Israël, ont été inspirés par l'Esprit de Dieu. Pourquoi ? Parce que si c'est l'Esprit de Dieu qui les inspire, alors, il y aura une réponse. Si c'est l'imagination de l'homme, il n'y aura pas de réponse. Si c'est l'Esprit de Dieu, il y aura une réponse, et que toute cette lenteur, tous ces siècles, ne sont que le temps qu'il faut pour que le cœur des hommes se prépare à recevoir l'inouï de cette révélation. Jean-Baptiste est un des derniers à pousser ce cri au moment où les temps allaient s'accomplir, c'est-à-dire au moment où on allait enfin connaître le dénouement, où la réponse de Dieu allait être manifeste, dévoilée, révélée. Jean-Baptiste, il n'a pas eu d'autre rôle que de battre le rappel des affligés, des sconsolati, des tribulati, et de tous bords. Et tout le monde arrivait. Dans l'Évangile, c'est flagrant. Des hommes, des femmes, des publicains, des pharisiens, des paralysés, des estropiés, des prostituées, des soldats, des centurions romains. Les seuls qui sont murés dans leur suffisance et qui n'accourent pas, c'est ceux pour qui la consolation est dans l'argent, le pouvoir ou l'orgueil. Ceux-là ne peuvent pas parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont la fortune, ils ont l'orgueil, puisque l'orgueil, ils le créent eux-mêmes, et donc ils n'ont pas besoin de consolation. Et c'est dans cette immense espérance, dans ce grouillement d'espérance messianique, qu'arrive Jésus. Et cela se passe où ? Au bord du Jourdain, pas loin de Jéricho. C'est curieux, mais c'est un des lieux les plus bas du monde. Il est même au-dessous du niveau de la mer. Et c'est dans cette bassesse, dans cet endroit, il n'y a pas plus bas, que Jean-Baptiste va commencer à dire à ses compatriotes, à ses concitoyens, à ses contemporains, qu'il y a un secret en quelque sorte. Un secret dont il est dépositaire et que il va montrer, il va désigner. Et ceux qui vont devenir les premiers disciples commencent à comprendre. Simon, qui n'est pas encore Pierre, dit « Nous avons trouvé le Messie ». Jean 1, 14. À cette heure, la vie publique est commencée. Le processus de l'accomplissement messianique est déclenché. Plus rien ne peut l'arrêter. Entre le moment où Jésus, devant le Baptiste, dit « Il faut accomplir toute justice » et l'instant où il murmure sur la croix « Tout est accompli », il se sera passé à peu près 30 mois, même pas 3 ans. 30 mois qui, pour nous chrétiens, ont transformé, peut-être pas la face du monde, mais au moins transformé nos cœurs et transformer notre compréhension du destin humain. 30 mois dont l'actualité demeure intacte, dont l'énergie continue à nous travailler, parce que la confession de foi des disciples, 20 siècles après, est la nôtre. Tuez le Christ. Tuez le Christ. Il nous reste maintenant à chercher à exprimer quelle signification moderne elle a pour nous. Comment arriver dans le monde où nous vivons à répondre à la question qui est le Christ, à répondre non pas par la découverte du Christ, mais par la réponse de l'obéissance de la foi.